Bonjour. Dans les deux dernières leçons, je me suis attaché à l'analyse de quelques moments de vie, quelques incidents vécus, quelques choses vues, insérées dans les essais. Et la semaine prochaine, je reviendrai à d'autres moments de cette nature. Nous avons remarqué qu'ils font souvent l'objet d'additions qui sont insérées dans les essais auprès des exemples venus des livres. Et nous avons aussi remarqué que ces additions ont la fonction d'arguments a fortiori ou a contrario par rapport aux exemples livresques. Dans divers événements de même conseil, Montaigne relatait ainsi deux événements, deux graves incidents de l'histoire de Bordeaux et de sa propre histoire. Et dans De la conscience, la dernière fois, nous voyons qu'il précisait que son frère avait été présent lors d'une dangereuse expédition durant l'une des guerres civiles. Et puis il rappelait aussi la mémoire de ce jeune page italien qui avait été tué lors d'une autre embuscade. Bien sûr, je terminais sur ça la dernière fois en disant on pourrait ne voir dans ces détails, dans ces choses vues, que des anecdotes accessoires, hein, des détails qui n'auraient pour fonction que de rendre le livre plus réaliste, plus vivant, justement, plus vivant. Et on pourrait passer rapidement par-dessus ces notations en les considérant comme négligeables. Je crois qu'on pourrait aisément sous-estimer leur pertinence s'il ne s'agissait à chaque fois, et c'était mes derniers mots mardi dernier, de la vie et de la mort. Ces anecdotes ont toujours, presque toujours trait à la vie et à la mort, s'il ne s'agissait de dangers bien réels, du temps des guerres, du temps des rébellions, et s'il ne s'agissait de dangers de mort, de perte capitale. Monins, on l'a vu, était tué, Lepage meurt lui aussi, Montaigne et son frère, ou le gentilhomme protestant masqué qui les accompagne, risquent leur vie. Et la semaine prochaine, je reviendrai à un certain nombre de cas de tels accidents, notamment ceux qui sont relatés à la fin du chapitre de la physionomie, où Montaigne tombe dans une embuscade, craint de mourir. Et dans ce cas-là, c'est sa bonne mine, son apparence confiante qui lui sauve la vie. La portée donc de ces incidents est finalement, à mon sens, grande. Il ne faudrait pas la méconnaître, puisqu'il se situe au bord de la mort. Et je crois que c'est quelque chose que nous allons rencontrer assez souvent dans la suite de ce cours, c'est que pour Montaigne, écrire la vie, c'est aussi et presque avant tout écrire la mort. En tout cas, cette écriture de la vie, elle se place toujours au bord de la mort et en face de cet enjeu. Suis-je en train de dire cela pour dramatiser un peu les choses, pour faire monter les enchères, hein? Dire qu'écrire la vie, c'est écrire la mort, c'est donner un peu plus d'importance aux petites choses que j'analysais dans les semaines passées. Ne suis-je pas en train de me défendre de ne traiter que de détails, des essais, et de ne suis-je pas en train de me justifier Justement, la semaine dernière, en sortant du cours, l'un d'entre vous m'a fait remarquer qu'il regrettait que je n'aille pas à l'essentiel, que l'essentiel manquait quelque chose dans mes analyses, dans mes commentaires, le sentiment d'une absence. Quelle était la chose qui manquait ? Vous pouvez avoir le sentiment que jusqu'ici, j'ai tardé à aller à l'essentiel. Et vous pouvez penser que je ne me suis intéressé qu'à des pages secondaires, à des épisodes mineurs. Au fond, je l'admets très bien et même je revendique cette méthode. Il me semble que l'essentiel a peut-être manqué, mais je crois que l'essentiel dans la littérature est dans les détails, et en particulier chez Montaigne. Et je crois qu'on n'atteint pas l'essentiel en s'attaquant à lui de front. C'est peut-être même le propre de la littérature, par opposition ou par différence, par opposition à ou par différence avec la philosophie. Entre la littérature et la philosophie comme expérience, que l'une passe par les détails. Et je choisis donc de manière assez délibérée une stratégie, peut-être n'est-ce qu'une tactique, de contournement, de détour. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas s'attaquer aux grandes questions de front. Et donc, qu'il est peut-être plus efficace de les prendre de biais, parce qu'il peut avoir l'air d'un petit côté dans les essais, et un petit côté qui est peut-être de ce fait moins protégé. C'est pourquoi je ne vais pas tout droit au thème majeur qu'on pourrait attendre dans cette écriture de la vie. La vie, la mort, justement. L'homme, l'étude de soi, la peinture de soi, tous ces grands thèmes chez Montaigne, le moi, la subjectivité, etc. Il me semble qu'il convient justement de les prendre autrement, par la bande, et si vous voulez, on peut remettre l'essentiel à plus tard. Ne sous-estimons pas la gravité des petites choses dans les essais, et c'est un peu ma démarche constante, celle du détour ou du contournement. Si à la fin on s'aperçoit que l'essentiel se rend parce qu'on l'a encerclé, eh bien cela sera très bien. Il peut ainsi nous être donné comme un cadeau, comme une prime. Pour l'instant, aujourd'hui, je voudrais me consacrer à trois points, trois moments qui sont peut-être distincts, mais je ne crois pas. Premièrement, quelques considérations sur Montaigne, témoin ou historien, puisque c'est un témoin et un historien qu'on a vu dans les leçons, au moins les deux ou trois dernières leçons. Deuxièmement, quelques remarques sur la définition qu'il donne des essais, définition récurrente ou qualification récurrente plutôt que définition, comme registre ou rôle, rôle de choses vues. Et puis, troisièmement, si j'y arrive, mais je pense que j'y arriverai, je voudrais parler brièvement du chapitre de l'oisiveté, qui est un registre qui se présente justement comme peut-être le premier registre de manière explicite dans les essais. Pour commencer donc, quelques considérations sur Montaigne, témoin et historien. Ces considérations tireront quelques conclusions des moments qu'on a étudiés dans les semaines passées. Que ces moments viennent des livres, puisqu'on a commencé avec cela, c'est à ces moments de vie auxquels Montaigne s'intéressait chez les historiens, ou qu'ils viennent de l'expérience vécue, comme on l'a vu dans les tout à fait dernières séances. Montaigne, témoin et historien, cela nous renvoie également à cette gradation évoquée dans l'une des premières leçons entre le témoin simple, le témoin sage, et puis tous ceux d'entre deux qu'il faut écarter. Le simple qui est fidèle parce qu'il ne s'est pas inventé, le sage qui est fidèle parce qu'il sait trier, et puis tous ceux d'entre deux qui introduisent les malentendus et le danger. Dans une longue et même très longue addition de 1500, non, dans une addition de 1588 qui est encore prolongée après cette date, entre 1588 et 1592, à la fin du chapitre de la force de l'imagination, 1.21, Montaigne médite sur sa position, son rapport aux histoires qu'il raconte. Il est vrai que dans ce chapitre, qui porte sur la force de l'imagination, les histoires incroyables se sont accumulées, se sont multipliées. Et Montaigne éprouve clairement le besoin de se justifier devant toutes ces histoires invraisemblables qu'il a trouvées ça et là, qu'il a rapportées et qu'il a commentées. Et voici comment le livre, le chapitre, se terminait en 1580, après une dernière histoire incroyable. « Car les histoires que je récite, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les tiens. » Montaigne déclinait en somme toute responsabilité devant ces anecdotes invraisemblables. Mais visiblement, ce plaidoyer est insuffisant, et l'édition de 1588 ajoute déjà un développement, car les histoires que j'emprunte, récite étant corrigé, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les prends. Les discours sont à moi, les commentaires, et se tiennent par la preuve de la raison, non de l'expérience. Chacun y peut joindre ses exemples et qui n'en a point, qu'il ne laisse pas de croire qu'il en est assez, vu le nombre et variété des accidents humains. Mais visiblement, là encore, la justification était insuffisante et vous voyez qu'elle s'est longuement développée dans la marge pour essayer de justifier cette attitude de Montaigne vis-à-vis des exemples plus ou moins vraisemblables qu'il a rapportés dans cet essai. Et il est donc indispensable qu'il se justifie de ce qu'il appelle, je vais vous donner la transcription parce que vous lirez plus facilement, ainsi, aussi, en l'étude de Nommer, c'est ce que vous trouvez à droite, en haut, dans la marge. Hein. Voici la transcription. Aussi, en l'étude que je traite de nos mœurs et mouvements, les témoignages fabuleux, pourvu qu'ils soient possibles, y servent comme les vrais. Montaigne se justifie donc d'inclure dans ses essais des témoignages fabuleux. Fabuleux, cela ne veut dire que tirer des fables. Lesquels, pourvu qu'ils soient possibles, ils servent comme les vrais. Possible, le témoignage est aussi utile, aussi intéressant que le témoignage avéré, que le témoignage réel. Puisque, je continue, advenu ou non advenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité duquel je suis utilement avisé par ce récit. Bon, la déclaration peut nous troubler de la part notamment d'un magistrat, cette attitude à l'égard du témoignage. Montaigne admet le témoignage fabuleux. Je le vois, dit-il, et en fait mon profit également en nombre qu'en corps, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une fable, l'ombre, ou du corps, la réalité. Et on peut même dire qu'il choisit la lectio difficilior, hein, aux diverses leçons, donc aux diverses versions que je puis avoir d'un récit, aux diverses leçons qu'ont souvent les histoires, je prends à me servir de celle qui est la plus rare et mémorable. Alors, comment se fait-il que Montaigne accepte ainsi des histoires non avérées, des fables, parce qu'elles sont, dit-il, un tour de l'humaine capacité, de la suffisance humaine, parce qu'elles disent l'homme. Montaigne n'est donc pas historien dans cette démarche qui consiste à chercher l'homme plutôt que chercher l'événement. Et voici ce qu'il dit aussitôt après. Hein. Il y a des auteurs desquels la fin, c'est dire les événements. Autrement dit, les historiens disent ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. La mienne, si j'y savais advenir, si je pouvais y parvenir, serait dire sur ce qui peut advenir. Montaigne s'intéresse ainsi à ce qui dépend de nous, selon une opposition qu'on a souvent rencontrée, hein, le conseil contre l'événement, l'intention contre la fortune, et tant pis si les événements ne suivent pas l'intention, ne suivent pas le projet, ne suivent pas le plan. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui peut advenir, le possible, mais le possible du point de vue de l'action humaine, plus que le réel. Et je crois que la distinction, elle nous est devenue familière depuis le début de ce cours. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est la délibération. Comment on parvient à une décision ? Comment on parvient à prendre un parti ? Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelait un peu plus haut la capacité, l'humaine capacité, ou ce qu'il appelle ailleurs notre suffisance, nos possibilités. Autrement dit, c'est encore le conseil par opposition à l'événement, suivant le titre d'un chapitre analysé dans le passé. Le contexte, je crois qu'il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas celui de la distinction qu'on pourrait par exemple trouver dans la poétique d'Aristote entre le possible et le vraisemblable, ou le vraisemblable et le vrai. Et Aristote disait dans la poétique qu'il faut préférer l'irréel vraisemblable plutôt que le réel invraisemblable. Ce n'est pas cela le contexte dans lequel Montaigne s'exprime. Ce qui l'intéresse, c'est une interrogation sur l'homme et donc sur l'humaine capacité et ces histoires qui peuvent nous dire quelque chose de l'homme, elles peuvent nous le dire qu'elles relèvent d'une certaine littérature ou qu'elles relèvent de la vérité historique. Montaigne précise d'ailleurs aussitôt qu'il n'invente nullement lui-même les fictions auxquelles il peut avoir recours, à la différence de ce qui se pratique dans les écoles. Il y a des auteurs desquels la fin, c'est dire les événements. La mienne, si je savais advenir, serait dire sur ce qui peut advenir, donc ce que les hommes ont la capacité de faire. Il est justement permis aux écoles de supposer des similitudes quand ils n'en ont point. Similitude, c'est le terme de la rhétorique, hein, la comparaison, l'analogie. Si on n'a pas d'exemple dans un exercice d'école, eh bien, on peut l'inventer. Montaigne refuse évidemment d'inventer des histoires quand le cas réel fait défaut. Je n'en fais pas ainsi pourtant, et dit-il, il surpasse de ce côté-là en religion superstitieuse toute foi historiale. Il y a bien sûr une sorte de comble ici, puisque dans la superstition, Montaigne n'a que cette sincérité historique, cette foi, cette fidélité à l'histoire. aux exemples que je tire séant de ce que j'ai lu, ouï, fait ou dit. Vous voyez que le « lu » est une addition. Donc, le Montaigne, c'est une addition qu'on trouve uniquement dans l'exemplaire de Bordeaux. Hein. Non, qu'on trouve uniquement dans l'édition posthume, pardon. Oui, fait ou dit, il s'agit bien de choses réelles plutôt que de lecture. Oui, fait ou dit. Montaigne s'intéresse donc à ce qu'il rapporte de sa propre expérience, de son propre chef. Je me suis défendu d'oser altérer jusqu'aux plus légères et inutiles circonstances. Ma conscience ne falsifie pas un iota. Ma science, je ne sais. Montaigne s'affirme donc plus scrupuleux que quiconque, y compris les historiens, les simples ou les supérieurs, dans la fidélité historique aux plus légères et inutiles circonstances des histoires. Et vous voyez qu'il tient à ces détails qui ont parfois l'air accessoires, mais dans lesquels réside la vie. Et cela ne l'empêche pas, d'ailleurs, de professer un doute raisonné, c'est celui du magistrat, face au témoignage. L'addition est longue, je ne la donne pas en entier, mais voilà comment il exerce son doute scrupuleux à l'égard du témoignage. Sur ce propos, j'entre parfois en pensée qu'il puisse assez bien convenir, je me demande s'il convient bien, à un théologien, à un philosophe, est-elle genre d'exquise et exacte conscience et prudence d'écrire l'histoire ? Qui doit écrire l'histoire ? Et vous voyez qu'on retrouve ici une formule assez proche de celle qui parcourt notre cours, écrire l'histoire, écrire la vie, qui doit écrire l'histoire ? S'il convient à un théologien, à un philosophe d'écrire l'histoire, comment peuvent-ils engager leur foi sur une foi populaire ? Comment peuvent-ils rapporter des témoignages qui viennent d'une voie populaire ? Comment répondre des pensées de personnes inconnues et donner pour argent comptant leurs conjectures ? Des actions à divers membres qui se passent en leur présence, ils refuseraient d'en rendre témoignage, assermenté par un juge, et non homme si familier des intentions auxquelles ils entreprennent de pleinement répondre. Je tiens moins hasardeux d'écrire les choses passées que présentes, d'autant que l'écrivain n'a à rendre compte que d'une vérité empruntée. Pour Montaigne, il est donc beaucoup plus difficile d'écrire la vie, d'écrire les choses vues, d'écrire à partir des témoignages vivants, des témoignages réels, que de commenter de seconde main. Je tiens moins hasardeux d'écrire les choses passées que présentes. Il est plus facile de commenter les historiens de l'Antiquité que de faire l'histoire du temps présent. Vous voyez qu'il oppose ici l'écrivain à l'historien, l'écrivain qui rend compte d'une vérité empruntée. On a compris que si Montaigne écrit la vie, ce n'est nullement comme mémorialiste, puisque c'est le mémorialiste qui est mis en cause ici. On l'avait déjà vu dans une autre occasion, dans des livres à propos des frères du Bélet. Le drame du mémorialiste, c'est d'écrire des choses présentes et donc d'avoir à se fier aux témoignages pour ce qu'il n'a pas vu ou entendu lui-même. Montaigne se présente donc comme un lecteur avide des historiens, c'est ce que nous avions vu dans les premières leçons, et chez les historiens, ce qu'il lit, ce sont les détails de vie. Là aussi, l'essentiel est dans les détails, mais il se refuse à devenir lui-même historien, ou encore, ou même à écrire les mémoires de son temps. Aucun rapporte-t-il, je poursuis l'analyse de cette longue addition qui est tout à fait importante, aucun me convie d'écrire les affaires de mon temps, donc de me faire le mémorialiste des guerres civiles que je viens de traverser, estimant que je les vois d'une vue moins blessée de passion qu'un autre et de plus près pour l'accès que fortune m'a donné aux chefs de divers partis. J'évoquais la semaine passée De Thou, l'historien De Thou. Eh bien, De Thou rapporte que Montaigne, qui se serait confié à lui, bon, c'est l'une des sources souvent citées, que Montaigne aurait servi d'intermédiaire entre Henri de Guise, le duc de Guise, le chef du parti catholique, et Henri de Navarre, futur Henri IV, chef du parti protestant. Mais ce n'est pas dans les essais de Montaigne que l'on trouve ce genre d'informations. Ce n'est pas dans les essais de Montaigne qu'on trouve si Montaigne, comme on le suppose, était présent aux États généraux de Blois en 1588, où le duc de Guise a été assassiné. Je crois que c'est un nouvel indice de sa grande discrétion sur la vie. Écrire la vie, ce n'est pas écrire la vie publique. Et pourquoi Montaigne évite d'écrire la vie publique ? Eh bien, je crois qu'on en a ici l'explication. Par conscience de la faiblesse du témoignage et de l'échec du mémorialiste. Il a donc beaucoup vu, il aurait été objectif ou impartial, mais il ne l'a pas fait et, au fond, il prend sur lui, dans un aveu de faiblesse, cette réticence à écrire l'histoire. Cette tâche, dit-il, lui aurait été impossible, non pas parce qu'elle est impossible en soi, mais parce qu'il aurait été trop faible. Écrire l'histoire, nous dit-il, exige de la durée, de longues narrations. Mais il ne dit pas, je poursuis la citation, que pour la gloire de Salluste, je n'en prendrai pas la peine, ennemi juré d'obligation, d'assiduité et de constance, qu'il n'est rien si contraire à mon style qu'une narration étendue. C'est sans doute une profession d'humilité. Je ne peux pas écrire une longue histoire, je ne peux pas, à la Tite-Live ou à la Salluste, raconter l'histoire de mon temps, mais c'est aussi un refus de la narration, au sens où la narration est étendue, comme Montaigne l'appelle aussi déduction, et c'est aussi un aveu de préférence pour ce style économe, discontinu, efficace, qu'on a rencontré lorsqu'il raconte une anecdote. Ce style efficace, ce n'est pas celui de l'histoire, c'est celui de l'anecdote, c'est celui de la nouvelle, et c'est un peu celui de l'attendu, du magistrat. Il n'est rien de si contraire à mon style qu'une narration étendue, je me recoupe, allusion au style coupé de la rhétorique, si souvent à faute d'haleine, mais en prenant la responsabilité, en prenant sur lui ce style coupé, je n'ai ni composition ni explication qui vaille. Alors, ce refus du récit, il y a un refus du récit dans les essais de Montaigne. L'écriture de vie, ce n'est pas sous la forme du récit qu'elle peut avoir lieu. Je dis, c'est ce style qui est à la fois celui de la nouvelle et celui du magistrat. Et on fait observer que le style de la prose narrative française, le style de la prose narrative en langue vulgaire, dont on trouve les traces dans les essais, à partir du XVe siècle en France, il a été emprunté au style qu'on appelle le style curial, c'est le style de la chancellerie, c'est le latin de la chancellerie, avec ce rythme que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, avec ces phrases qui sont, chez Montaigne, toujours rallongées par des propositions relatives, par des participes présents. Alors, c'est le style de la nouvelle à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, grand genre de la Renaissance, et c'est d'une certaine façon le style de Montaigne narrateur. Hein. Tous les petits moments de vie dans les essais sont rapportés dans ce style-là, avec des longues phrases. Hein. Le style bref n'exclut pas une phrase longue, mais c'est une phrase longue qui est prolongée de manière discontinue, comme cet exemple que je prends, c'est le début du chapitre déjà commenté, divers événements de même conseil, c'est le style du moment de vie, de l'attendu du vie dans les essais, l'incipit de ce chapitre. Jacques Amyot, grand aumônier de France, me récita un jour cette histoire à l'honneur d'un prince des nôtres. Et nôtre était-il à très bonnes enseignes, encore que son origine fût étrangère, puisqu'il s'agit d'un duc de Lorraine. Que, durant nos premiers troubles, au siège de Rouen, ce prince, ayant été averti, les multiplications de ses participes que j'évoquais, ce prince ayant été averti par la reine, mère du roi, d'une entreprise qu'on faisait sur sa vie et instruit particulièrement par ses lettres de celui qui la devait conduire à chef, qui était un gentilhomme angevin ou manceau, fréquentant lors ordinairement pour cet effet la maison de ce prince, il ne communiqua à personne cet avertissement. Vous voyez comment la phrase narrative, la phrase du moment de vie de Montaigne, rapportée ou vécue, est toujours ainsi prolongée de ces deux manières, relative et avec ses participes, mais se promenant le lendemain au Mont-Sainte-Catherine d'où se faisait notre batterie à Rouen, car c'était au temps que nous la tenions assiégée, ayant à ses côtés le dit seigneur grand aumônier, et vous pouvez observer ici cet emprunt, hein, le dit, qui est au style de Montaigne magistrat, et qui se retrouve dans toutes les nouvelles de la Renaissance, ayant à ses côtés le dit seigneur grand aumônier et un autre évêque, il aperçut ce gentilhomme qui lui avait été remarqué et le fit appeler. Et ensuite, Montaigne en vient à la conclusion. Il va donner la parole à l'échange qui aura lieu entre ces deux hommes. C'est donc un passage assez exemplaire de ce récit de ces moments de vie qu'on trouve dans les essais, où Montaigne n'ignore aucune des circonstances, comme il a dit. Toutes les circonstances sont rapportées avec fidélité, la foi historiale n'exclut aucune des circonstances, mais toutes ces circonstances sont ramassées dans une phrase de magistrat qui se trouve aussi la phrase du nouvelliste de la Renaissance, pour aller au plus vite à l'effet, à la conclusion. Autrement dit, il n'y aura dans les essais que des contes et des nouvelles, hein, c'est-à-dire des récits brefs d'événements, réels ou récents, et non pas des narrations étendues. Des traits, des incidents dans l'économie du détail, dans une phrase ramassée, efficace, faite d'infinitifs et de participes. Et je reviens au tout début de ce que je vous montrais. Voici ce qui avait provoqué, voici les anecdotes qui avaient provoqué cette digression finale du chapitre de la force de l'imagination. Pourquoi Montaigne a dû, en plusieurs étapes, en trois étapes, développer une justification ? Parce qu'il venait de raconter ceci, c'était les deux anecdotes finales. On vit dernièrement chez moi un chat guettant un oiseau au haut d'un arbre et s'étant fiché la vue ferme l'un contre l'autre, quelque espace de temps, l'oiseau s'être laissé choir comme mort entre les pattes du chat, ou enivré de sa propre imagination, ou attiré par quelque force attractive du chat. Conclusion du chapitre de la force de l'imagination. Ceux qui aiment la volerie ont ouï faire le conte du fauconnier qui, arrêtant obstinément sa vue contre un milan en l'air, gagé de la seule force de sa vue, le ramenait contrebas et le faisait à ce qu'on dit. Car les histoires que j'emprunte, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les prends. Deux anecdotes finales sur l'imagination, la force de l'imagination, et comme vous le voyez, elles sont de manière tout à fait caractéristique, chacune tenue en une phrase multipliant les participes présents pour tout conclure le plus vite possible, jusqu'au moment où on arrive à la chute, et le faisait à ce qu'on dit, une chute brève et efficace. L'écriture de vie prend donc au sens le plus simple dans les essais ce style de l'attendu du procès verbal, de l'enregistrement, ce style qui multiplie donc les participes présents. Écrire la vie, on pourrait dire d'une certaine façon que ça passe par le participe présent. Je viens de parler, c'est le deuxième point que je voudrais faire aujourd'hui, je viens de parler donc de style de l'attendu, de l'enregistrement du procès-verbal qui revient dans toutes ces choses à la manière dont Montaigne rapporte les choses lues, ouïes, vues ou entendues. Et je voudrais donc en venir à ce deuxième point sur la qualification fréquente des essais, puisque Montaigne reprend lui-même ces termes pour définir les essais, cette écriture de la notation comme registre ou rôle. Montaigne évoque souvent, enfin, l'un des mots importants qu'on peut trouver souvent dans les essais, c'est le mot « notable ». Une chose est notable, digne d'être notée, les exemples sont notables, les témoignages sont notables, les événements sont notables, les actions sont notables, le notable est une notion importante. Et les essais sont très largement un enregistrement de ce qui est notable. À la manière des historiens simples, ou bien des historiens sages, en évitant l'entre-deux. L'historien simple qui rapporte ce qu'il a vu ou l'historien très sage qui sait trier justement ce qui est notable. Partons, si vous voulez, de cette expression qui est bien connue et qui se trouve dans le chapitre de l'expérience, donc à la fin des essais. Elle est dans le texte de 1588. « Enfin, toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie. » Fricassée, c'est une image qui vient de la cuisine. Ce sont les viandes coupées en petits morceaux et cuites lentement dans une sauce. Fricassée, les essais traités comme un plat qui a cuit longtemps. Que je barbouille, fricassé que je barbouille, barbouille ici probablement ne renvoie nullement au sens pictural. Barbouiller, couvrir, mais un sens qui est beaucoup plus près de l'étymologie. Barbouiller, c'est plus ou moins bredouiller, balbutier, barboter. C'est ce sens-là en français. Une fricassée que je bredouille. Montaigne, dans ce balbutier, invoque ainsi le côté bigarré, le côté sans ordre de ses essais, n'est que un registre des essais de ma vie. Bon, ici, je crois qu'on va à quelque chose d'assez essentiel, une définition des essais comme registre des essais de ma vie. J'ai dit l'expression figure dans le livre 3, dans le chapitre de l'expérience, donc dans le dernier chapitre, un petit peu comme un bilan. Après coup, et c'est la conclusion, enfin, c'est la conclusion d'un long développement sur l'étude de soi. C'est au cours de ce développement que Montaigne a écrit cette phrase, elle aussi bien connue, « Je m'étudie plus qu'autre sujet, c'est ma métaphysique, c'est ma physique. » Mais n'oublions pas la fin de la phrase, je n'ai introduit jusqu'ici que le début, n'est ici qu'un registre des essais de ma vie, qui est, ma vie, pour l'interne santé, exemplaire assez à prendre l'instruction à contrepoil. C'est-à-dire que ma vie peut, pour l'interne santé, c'est la santé de l'âme, la santé intérieure par opposition à la santé du corps, dont Montaigne parlera dans la suite de chapitre, pour la santé de l'âme, ma vie peut servir d'exemple à condition de faire tout le contraire de ce que j'ai fait. C'est évidemment... ça va de soi, puisqu'on a vu déjà à plusieurs reprises combien Montaigne ne se présente pas comme étant lui-même exemplaire. Donc ma vie peut servir d'exemple, ou du moins de contre-exemple, si on la prend à contre-pied. Donc, les essais sont quelque chose comme un registre de contresens, de malentendus, de contre-exemples. L'essai, c'est un peu aussi ici au sens d'échec. Si c'est des essais, c'est que cela n'a pas abouti. J'ai essayé et je n'ai pas réussi. Tous les mots comptent donc dans ce passage, en particulier du point de vue qui est le nôtre. Vie, essai, avec le sens d'expérience et d'inaboutissement, et enfin registre, et c'est le mot sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, définissant le livre que le lecteur a entre les mains comme un registre, c'est-à-dire un recueil, un répertoire d'essais de vie, un catalogue d'essais de vie, d'expériences de vie. Comment souligner plus fortement le rapport crucial qu'il y a entre l'écriture et la vie ? Registre, c'est donc le livre où on inscrit les actes, c'est le compte-rendu au sens juridique. Je me rappelle que l'an passé, lorsqu'il avait fait un exposé sur Montaigne, ici, Bernard Sèvres avait comparé les essais dans une très belle image à une main courante. La main courante, c'est le registre. C'est le registre où on note les opérations à la banque, où on note ce qui est notable au commissariat. Donc, ça appartient à ce style administratif, main courante comme registre. Et Montaigne utilise beaucoup les expressions tenir registre, mettre en registre, consigner, recueillir. Le livre des essais, s'il est un livre de vie, c'est au sens de ce livre de compte, ce livre des entrées et des sorties, qui est une main courante. Qu'est-ce que cela veut dire, registre ? Registre, cela vient, et je crois que l'étymologie est très importante ici, ça vient de regesta, qui est le participe passé du verbe regerere en latin, comme gesta vient de gerere, ce qui nous renvoie donc de nouveau à l'histoire, la grande histoire, comme res gestae. C'est le titre des histoires exemplaires de l'Antiquité, res gestae, la vie d'Auguste. Res gestae, c'est-à-dire chose faite par les grands hommes, mais le livre de Montaigne, il est au plus loin de ces res gestae, de ces faits et gestes, de ces choses faites. Il est gerere, c'est porter, regerere, c'est reporter, transcrire, Et c'est bien ainsi que, Montaigne définit son livre à de nombreuses reprises. Par exemple, encore ici, dans une proposition qu'on trouve au début, au tout début de la vanité, c'est le début de la vanité, qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde, je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions, hein. Je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions, hein. Res gestae, les actions de la vie, fortune les met trop bas, je le tiens par mes fantaisies. Registre de fantaisie. Au fond, c'est l'expression qu'on trouvera à plusieurs reprises ou des variations sur cette expression. Montaigne tient registre, Montaigne met en registre, et le mot même de registre est opposé donc à celui de au fait, res gestae. Et Montaigne, c'est l'une des formules là aussi célèbres et tardives du chapitre de l'exercitation, ce ne sont pas mes gestes que j'écris, ce ne sont pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Voici l'essentiel. Ce ne sont pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence, mais cette essence, elle est à travers ces essais de vie, ces essais de vie largement inaboutis. On a donc, et c'est le troisième point que je voudrais faire en arrivant au chapitre de l'oisiveté, une définition de l'écriture de vie comme enregistrement, comme mise en registre de fantaisie. C'est ce que l'on va trouver au début du chapitre de l'oisiveté. Mais pour y venir, je voudrais passer là aussi par un passage très célèbre. C'est le début du chapitre de l'amitié. Au début du chapitre de l'amitié, Montaigne nous donne une première définition de ce que sont les essais. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance, capacité. Et le vide tout autour, il le remplit de grotesques qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont-ce ici aussi à la vérité que grotesque et corps monstrueux, rapiécé de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite ni proposition que fortuite. Bon, la page est bien connue. Montaigne fait référence aux grotesques, aux décorations murales fantaisistes, suivant un emprunt à l'italien, un grotesca. Ce sont les fresques qu'on trouvait dans les grottes découvertes à la Renaissance, de la Domus Aurea de Néron à Rome. C'est donc des sujets fantastiques, des compositions capricieuses, des animaux et des plantes étranges, des peintures dérisoires et ridicules. Et Montaigne décrit ici sa propre écriture comme l'encadrement accessoire du chef-d'œuvre de son ami mort, la Boétie. C'était le moment où il entendait les essais comme le cadre du traité de la Boétie, de la servitude volontaire. Les essais ne sont que des grotesques. Mais on a la définition ici de ces éléments de fantaisie. Et c'est ce qu'on va retrouver au début du chapitre de l'oisiveté, où Montaigne, et je vais essayer d'aller vite dans les 10 minutes qui me restent, pour vous parler de ce petit chapitre de l'oisiveté, où on retrouve ces monstres, ces caprices, ces fantasmes, et où Montaigne définit les essais comme registre de fantasmes. Alors, c'est un très court chapitre auquel Montaigne n'affecte aucun changement après 1580. sinon deux citations ajoutées, et qui comprend deux parties que je vais vous donner en deux images. Première partie, c'est une comparaison très appuyée, et deuxième partie développera ce que sont les essais, l'application de la comparaison. Comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises, Montaigne donne en général la leçon avant d'en venir à l'expérience. Voici la comparaison. Comme nous voyons des terres oisives, si elles sont grasses et fertiles, foisonnées en 100 000 sortes d'herbes sauvages et inutiles, et que pour les tenir en office, il les faut assujettir et employer à certaines semences pour notre service. Donc, première image, première similitude, première analogie, les terres vierges, les terrains vagues, c'est emprunté à Tacite. Puis deuxième analogie, et comme nous voyons que les femmes produisent bien toutes seules des amas et pièces de chair informe, mais que pour faire une génération bonne et naturelle, il les faut embesogner d'une autre semence, allusion cette fois-ci au fibrome, et l'exemple vient de Plutarque, hein, Tacite et Plutarque, voici les deux comparaisons. Ainsi en est-il des esprits. Les esprits sont comme les terres oisives ou comme les femmes solitaires. Si on ne les occupe à certains sujets, qui les brident et contraignent, ils se jettent déréglés par-ci par-là dans le vague champ des imaginations. Montaigne ajoutera, c'est l'une des seules additions, une citation de Virgile ici. Et ni folie ni rêverie qu'ils ne produisent en cette agitation, velut aegris omnia vanae finguntur species. C'est le début de l'art poétique d'Horace, c'est une citation extrêmement connue sur aegris omnia, les songes d'un malade. La poésie, ce sont les songes d'un malade sans art poétique. L'âme qui n'a point de but établi, elle se perd, car, comme on dit, c'est Sénèque, ce n'est être en aucun lieu que d'être partout. Quisquis ubique habitat, maxime nousquam habitat. Qui habite partout n'habite nulle part. Voilà donc pour la première partie de ce très court chapitre, avec ces deux comparaisons successives pour les esprits en friche, délaissés, inoccupés, et vous le voyez, le résultat est une agitation vaine, la folie, la rêverie, folie, rêverie, imagination. Tous ces mots comptent. Et puis, voici la seconde partie qui développe la comparaison et qui en vient à l'expérience personnelle, à la chose vécue. Dernièrement, que je me retirais chez moi, délibérer autant que je pourrais, ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie, il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il peut, mais oui, faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. Montaigne évoque donc directement sa retraite de 1571, conformément à une inscription qu'on trouve dans sa tour, dans la tour de sa librairie, où il évoque sa retraite pour se consacrer, dit-il, à la liberté, la tranquillité et le loisir. Libertas, tranquillitas et otium. Délibération donc de retraite. Et dans cette retraite, nous voyons l'opposition très classique de la vie active, negotium, et de la vie contemplative, otium. Et Montaigne, suivant la sagesse de Cicéron, considère que c'est dans l'otium, dans le loisir studieux, que l'homme se réalise, tandis que le negotium, le négoce, le commerce, empêche la réalisation de soi. C'est dans la solitude que l'on est réellement. Et Montaigne développe ainsi ce projet d'entretien de soi avec soi. Il ne semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté s'entretenir avec soi-même. Il y a donc là le projet d'un entretien autonome de soi à soi, au repos, à l'arrêt, pour trouver son assiette. Mais je trouve, variam semper dant ossia mentem, toujours l'oisiveté rend l'esprit inconstant, mais je trouve qu'au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfant tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Là aussi, c'est un passage très connu, mais il était à peu près inévitable de repasser par lui, puisque Montaigne définit ainsi les essais comme mise en rôle, mise en registre des chimères, des fantasmes, des rêveries que la solitude suscite. Et dans ces rêveries que la solitude suscite, il y a là toute une tradition de la mélancolie. C'est le démon de midi qui affecte les moines et les ermites, et la manière de Montaigne est donc d'écrire les fantasmes pour avoir une discipline de vie, une règle de vie à l'image de ce qui se passe dans la discipline conventuelle. Il y a une métaphore très intéressante, évidemment, c'est celle de ce cheval échappé, et il y a une variante qui est superbe l'édition posthume, qui plaide pour l'édition posthume, c'est à mes yeux l'une de celles qui plaide fort pour la supériorité de l'édition posthume de 1595, là où on lit affaire, en 1588, il se donne 100 fois plus d'affaires, faisant le cheval échapper, se donne 100 fois plus d'affaires. Montaigne l'a corrigé, si c'est lui qui l'a corrigé, dans l'édition posthume de 1595, on se donne 100 fois plus de carrière à soi-même. Et la carrière ici, c'est la carrière du cheval. La carrière du cheval échappé, le terrain de course, le champ de course. Donc la métaphore est poursuivie d'une manière qui, à mes yeux, ici, plaide pour la supériorité de ce texte sur les textes précédents. Nous allons arrêter là parce qu'il est 5h30 et